France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord ce contre-ordre. La Cour d'appel de Paris a demandé tard hier soir la reprise des traitements pour Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans maintenant. L'hôpital de Reims avait hier matin entrepris de suspendre l'alimentation et l'hydratation artificielle après l'aval du Conseil d'État. Les avocats des parents de Vincent Lambert doivent se rendre ce matin sur place à Reims pour constater la reprise des traitements. À 5 jours des élections européennes, Emmanuel Macron défend son bilan. Et il choisit pour cela la presse quotidienne régionale. Entretien du président ce matin, dans lesquels il appelle à voter ce dimanche lors du scrutin. Et il cible une nouvelle fois les partis nationalistes dont il souligne la connivence avec des intérêts étrangers. En bref, encore l'Assemblée nationale a voté hier soir pour une expérimentation des ruptures conventionnelles dans la fonction publique sur le modèle du secteur privé. Expérimentation qui doit durer 5 ans à compter du 1er janvier prochain. La rupture conventionnelle induit une prime de départ et une allocation de retour à l'emploi. En Autriche, tous les ministres d'extrême droite ont démissionné. Ils avaient formé il y a 1 an et demi une coalition avec les conservateurs du chancelier Sébastien Kurz. Ces départs hier sont liés au limogeage un peu plus tôt dans la journée du ministre de l'Intérieur, dans le cadre toujours de l'affaire d'Ibiza, un scandale autour de financements russes. Le département américain du commerce est finalement revenu hier sur une partie des restrictions qu'il avait imposées à Huawei. Le géant chinois des télécom pourra finalement conserver ses réseaux aux États-Unis pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-août. D'ici là, Huawei affirme que des discussions sont en cours avec Google. C'est Google qui avait le premier hier annoncé cesser ses activités avec Huawei. Et puis nous avons appris cette nuit la mort de Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1 autrichien. Légende des circuits dans les années 70 et 80, il avait échappé de peu à la mort en 76, victime d'un accident lors du Grand Prix d'Allemagne. Niki Lauda avait 70 ans.
Notre-Dame de Paris, un roman cathédral. Publié en 1831, le chef-d'œuvre de Victor Hugo a pour personnage principal un monument. La Bibliothèque nationale de France et France Culture vous invite à une nuit littéraire vendredi 24 mai en ouverture du festival La Bibliothèque parlante. Présentation du manuscrit, lecture par Charles Berling, projection monumentale, émission et diffusion d'un feuilleton radiophonique avec Michel Bouquet. Notre-Dame de Paris, monument littéraire, le 24 mai de 19h à 22h en direct et en public de la BNF et jusqu'au bout de la nuit sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03 et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tout le monde connaît bien sûr Ulysse, Pénélope, Télémaque. Tout le monde sait à quoi ressemble un cyclope et chacun de nous utilise encore aujourd'hui des expressions comme cheval de Troie ou talon d'Achille. Mais que savons-nous de l'auteur d'Ulysse et de l'Iliade ? Qui était Homère, si tant est qu'il ait existé un jour? Pour répondre à cette question, une belle exposition à voir où Louvre lance jusqu'au 22 juillet. Et notre invité ce matin est un des commissaires de cette exposition, Vincent Pomarède.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Toute une exposition sur l'influence du poète grec qui n'a peut-être pas existé, Vincent Pomarède. Bonjour.
Bonjour.
Ben, si ça se trouve, il n'a pas existé, Homère.
Certains auteurs pensent qu'il n'a pas existé. En fait, dans l'Antiquité, visiblement, les anciens ne se posaient pas la question et considéraient que c'était une personne historique. On avait même beaucoup d'anecdotes sur sa vie. Et puis, au cours du temps, les doutes ont commencé à s'installer. Et à partir du 18e et du 19e siècle, on a vraiment douté. On s'est demandé s'il existait réellement, si ça n'était pas plusieurs personnes dont l'œuvre avait été réunie autour d'un seul nom. Et puis on s'est demandé également quel était son rôle. Est-ce qu'il avait vraiment écrit ? Est-ce qu'il avait fait que récolter des traditions orales qui s'étaient transmises à travers le temps
et qui se transmettent encore aujourd'hui?
Absolument.
Tout va bien.
Absolument, heureusement, ouais. Heureusement. Donc quel était son rôle ? Est-ce que c'était un poète de génie ? Est-ce que c'était seulement un compilateur ? Est-ce qu'il a vraiment écrit l'Iliade et l'Odyssée en entier? Qui a écrit tous les autres textes qui existent sur la guerre de Troie? Donc aujourd'hui, le mystère est encore entier, même si les camps se sont un peu radicalisés entre ceux qui considèrent qu'il existe vraiment et ceux qui pensent que ça a été simplement un compilateur à un moment de l'histoire.
Et vous-même, vous appartenez à quel camp, Vincent?
Moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que c'était un compilateur de génie. Parce que quand on regarde tous ces poèmes qui apparaissent à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, de manière complètement orale, quand on voit leur transmission jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, moment où sans doute on a commencé à mettre noir sur blanc ces poèmes, on distingue quand même très clairement deux types d'œuvres, des œuvres qui sont intéressantes mais qui racontent l'histoire d'une façon assez simple et pas toujours d'une très belle qualité littéraire, et puis deux textes qui se détachent vraiment du lot, qui sont l'Iliade et l'Odyssée. Alors les histoires sont les mêmes, mais il y a quand même derrière quelqu'un qui écrit remarquablement bien, et je pense que, en tout cas c'est ma vision des choses, que Homère a su intelligemment compiler des textes, des histoires qu'il a donc mis noir sur blanc dans l'Iliade et l'Odyssée, avec un talent littéraire tout à fait exceptionnel.
Oui, depuis cette Grèce antique, il s'adresse à tous les temps et à tous les univers. La preuve, donc, cette exposition. En fait, quand je disais qu'elle tentait de répondre à la question de savoir si Homère a existé ou pas, c'est juste une manière d'accrocher les auditeurs. Mais en réalité, la véritable signification et le véritable avantage d'aller à cette exposition, c'est de voir à quel point Homère a influencé des artistes, des scientifiques, des hommes de culture, et puis il a influencé à peu près tout le monde, un peu partout, toute époque confondue.
Oui, c'est très fascinant. Peut-être parce que avec la Bible, c'est le premier texte de l'histoire de la littérature et de la poésie. Peut-être aussi parce que les histoires racontées par Homère sont très fortes, très puissantes et également très émouvantes dans certains de leurs aspects. Sûrement parce qu'il a tout inventé dans le domaine de la littérature. Il a inventé les raccourcis, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le flashback, avec des retours en arrière. Il a inventé les narrations multiples, qui sont évidemment pour la littérature des choses tout à fait importantes, et sûrement parce que tout de suite, dès l'Antiquité, les gens ont admiré ces héros et ces héroïnes, et dès l'Antiquité, on a un enracinement très profond dans les arts, toutes les formes d'art d'ailleurs, toutes les formes de littérature. Dès l'Antiquité, des auteurs comme Théocrite ou comme Plutarque font les premières satires. Donc on commence à se moquer des textes d'Homère, en fait, dès l'Antiquité. Et moi, je dis toujours que l'humour et l'ironie appliquée à un auteur, c'est la marque de son succès. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté, y compris durant la période du Moyen-Âge, où effectivement, il y a peut-être eu un peu moins d'inspiration du côté des artistes. À partir du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, tous les domaines de la création, que ce soit musical, littéraire ou des beaux-arts, se sont intéressés à Homère, s'en sont inspirés, parfois de façon complètement littérale, parfois en reprenant des systèmes poétiques ou des natures de récits. Et évidemment, les nouveaux arts aujourd'hui continuent, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, la publicité, tous les arts du XXe siècle et du XXIe siècle continuent à s'intéresser à Homère et à s'en inspirer.
Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? On peut voir l'influence, effectivement, d'Homère sur tous les arts, on peut le dire, hein. Peinture, statues, tapisserie.
Oui, alors nous avons voulu rendre le sujet le plus accessible possible pour les publics, avec deux présupposés. Le premier, c'est que les gens effectivement connaissent Homère, savent qui sont certains de ses héros, pas tous, mais enfin une grande partie. Beaucoup de gens, à un moment de leur scolarité, ont lu des extraits de l'Iliade ou de l'Odyssée, mais au fond, le mécanisme homérique n'est pas forcément connu de tous. Et d'autre part, nous voulions aussi rendre l'exposition très vivante et ne pas suivre un parcours chronologique classique, un peu universitaire, un peu dogmatique. Et donc, nous avons eu comme choix de mélanger effectivement toutes les techniques. Et effectivement, le visiteur sera confronté à toutes les formes de ce que l'on appelle les beaux-arts, mais également à des enregistrements d'opéra ou de musique classique ou moderne.
Oui, il y a une playlist Homer.
Oui. On a des écrans qui permettent de diffuser des films, aussi bien des films muets que des films plus récents. Donc il y a vraiment une diversité des supports de création. Et d'autre part également, on a voulu mélanger les époques. C'est-à-dire qu'on se dit, si on traite un thème, que ce soit une bataille dans l'Iliade ou un épisode raconté par Ulysse dans l'Odyssée, eh ben on va montrer la manière dont les artistes de toutes les époques ont traité ce thème spécifiquement. Donc le parti de l'exposition, il est volontairement de mélanger les époques et de mélanger les techniques. Après, on savait qu'il fallait expliquer certaines choses. On parlait tout à l'heure de la figure d'Homère. L'exposition s'ouvre sur un moment très fort qui sont des grandes statues monumentales représentant les dieux, puisque
l'Olympe, les dieux de l'Olympe.
C'est
le point de départ.
Oui, c'est le point de départ, et ce sont aussi des héros de l'Iliade et l'Odyssée, les dieux. Donc le visiteur est d'abord confronté à cette
impressionnante statue qui vient d'où d'ailleurs ?
Alors qui viennent pour la plupart en fait d'un lieu peu connu qui se trouve à Versailles, qui s'appelle la Gypsothèque, où sont conservés les moulages sur lesquels travaillaient les étudiants de l'école des Beaux-Arts au XIXe siècle. Et ces moulages ont été conservés, ont été restaurés et sont donc présentés dans cette exposition avec un original en marbre d'époque romaine qui représente une muse et qui vient couronner cette assemblée des dieux. C'est comme ça que nous l'avons appelée l'assemblée des dieux. Et juste après, l'introduction porte sur cette personnalité d'Homère. Existe-t-il, n'existe-t-il pas, etc. De façon à ce que le visiteur parte dans les thèmes homériques avec la base en quelque sorte qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre son œuvre.
Et puis, toujours avec vous, Vincent Pomarez, vous êtes un des quatre commissaires de cette exposition où l'ouvre lance. Homère, avec vous, on va déambuler. Vous restez avec nous ce matin, c'est le Réveil culturel sur France Culture. Autour de l'exposition Homère au Louvre Lens jusqu'au 22 juillet. Je suis avec Vincent Pomarez. Vous venez d'écouter un des morceaux que vous nous proposez dans cette exposition Homère, puisqu'il y a, je disais tout à l'heure qu'il y avait une playlist Homère, mais c'est vrai, là on vient d'écouter un extrait du retour d'Ulysse dans sa patrie. C'est le prologue de Claudio Monteverdi, effectivement, et c'est dirigé ici par Claudio Clavina. Il y a aussi des grands chefs-d'œuvre présents qui représentent une scène de l'Iliade ou de l'Odyssée, ou une scène inspirée par le monde homérique.
Oui, dans le domaine de la peinture, évidemment, c'est un auteur qui a beaucoup marqué les artistes. Nous avons des représentations du Jugement de Paris par Watteau, par exemple, qui est un petit tableau absolument ravissant qui est prêté par le département des peintures du Louvre. Nous avons la figure d'Hélène, très belle figure, qui est en train de rêver sur les murailles de Troie et qui se culpabilise de tout ce qui est en train d'arriver. C'est un tableau de Gustave Moreau qui a été prêté par le musée d'Orsay. Plusieurs tableaux, gravures, dessins assez étonnants de Marc Chagall. parce que les artistes du début du XXe, eux aussi, se sont intéressés à Homère. Et puis, alors des artistes peut-être moins connus, mais qui relèvent de mouvements académiques très importants au XIXe siècle, comme les frères Bénouville, qui étaient des élèves d'Ingres, qui ont travaillé dans le cadre de leur concours pour le Grand Prix de Rome sur les thèmes homériques. Je dirais qu'à un moment ou à un autre, tous les grands artistes du XVIIe au XXe siècle se sont intéressés à Homère. L'exposition étant organisée thématiquement, nous avons choisi de retenir certains épisodes. Pour l'Iliade, nous sommes surtout intéressés au thème des batailles, au thème de la mort. Donc c'est une partie qui est très vivante, très mouvementée, très spectaculaire et dramatique. Alors qu'au contraire, du côté de l'Odyssée, nous avons retenu plutôt, hormis un petit chapitre sur les monstres qui était incontournable,
les figures féminines.
Voilà,
bien sûr.
Plutôt les figures féminines, toutes ces femmes dont Ulysse raconte les amours qu'il a pu avoir avec elles. En fait, ce qui est toujours très amusant dans l'Odyssée, c'est qu'il passe son temps à dire qu'il aime Pénélope, qu'il veut retrouver Pénélope, mais en fait, il l'a abondamment trompé tout au long du parcours, jusqu'aux retrouvailles finales, effectivement, qui sont magnifiques. On a cherché aussi des raretés. Par exemple, on a une grande peinture d'André Derain qui représente le massacre des prétendants. Et c'est une grande surprise pour le visiteur de voir qu'André Derain, qu'on connaît surtout comme un compagnon de route des peintres fauves et des courants d'avant-garde du début du XXe siècle, s'est inspiré d'un thème homérique et d'un des thèmes les plus violents, en fait, et les plus narratifs même, qui est celui du massacre des prétendants. Et puis, le visiteur, je pense, pourra admirer un magnifique ensemble qui traverse toute l'exposition de vases grecs qui nous ont été prêtés par les musées du monde entier, les musées grecs bien sûr, le Metropolitan Museum de New York. Tous ces vases grecs ayant été peints par des artistes extrêmement célèbres durant l'Antiquité. Et évidemment, ils viennent répondre en écho aux peintures et aux sculptures qui sont présentées d'époque plus moderne finalement.
Et des cartes, puisqu'on a aussi, j'allais dire, la carte et le territoire de l'Iliade et de l'Odyssée.
Oui, on a plusieurs cartes en fait. Il y a d'abord la carte des voyages imaginaire d'Homère lui-même, puisque dans les récits antiques, légendaires ou non, il y a un certain nombre de voyages qui lui auraient permis d'acquérir une expérience, et voyages durant lesquels il composerait ses poèmes ou il les réciterait dans les rues des villes. Et puis il y a la carte de l'Odyssée surtout, parce qu'effectivement c'est là où le périple est important. On finit, à force d'avoir des aventuriers qui se sont intéressés à cela, par avoir un peu une idée des lieux que Homère avait retenus et qui existent toujours, à commencer par l'île d'Ithaque, qui est l'île dont Ulysse est le roi. Et donc il faut que le visiteur puisse s'y retrouver, parce que évidemment tout le monde ne connaît pas bien la Grèce, tout le monde ne connaît pas bien les îles grecques, et il faut faire la part entre l'imaginaire et le réel, bien sûr, à chaque fois, puisque même si aujourd'hui on a un peu une idée de où se trouve la ville de Troie en Asie mineure, les archéologues ont encore des doutes sur la réalité exacte de son emplacement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
sensualité et violence très souvent se retrouvent dans cette exposition Homère ou Louvre-Lens, particulièrement quand vous abordez bien sûr les sirènes de l'œuvre d'Homère.
Oui, alors ça c'est très très intéressant parce qu'en fait dans l'Antiquité grecque, les sirènes étaient des femmes oiseaux. Et dans le texte de l'Odyssée, elles ne sont pas dans la mer, elles sont dans un champ le long de la rive. Et en revanche, dans la tradition nordique, de la mythologie nordique, les sirènes sont des femmes poissons. Et c'est très intéressant dans la même salle de voir les représentations de la scène des sirènes de l'Odyssée dans l'Antiquité, où on voit des femmes oiseaux sur les vases grecs ou dans des sculptures, et de voir comment est-ce que par la suite les peintres, surtout du 19e siècle, ont représenté l'épisode. Le seul qui fait exception étant Marc Chagall, qui est le seul qui représente les sirènes comme des femmes oiseaux, c'est-à-dire avec une fidélité, je dirais, archéologique. Les autres faisant une sorte de contamination entre la mythologie grecque et la mythologie nordique, en montrant ces femmes poissons. On a des très beaux exemples, entre autres de Rubens, qui représente dans des petites esquisses ces scènes-là.
Alors, Homère ou le collectif qui se cachait derrière Homère auront comme imposé quelques sérieux problèmes à la censure au fil des temps.
Oui, parce qu'il y a des épisodes qui sont
quand
très...
Quand je dis au fil, parlant tout de suite de tapisserie, parce qu'on apprend des choses dans cette exposition.
Bien sûr, parce qu'effectivement, dans l'exposition, nous présentons des tapisseries, parce que c'est un art qui a représenté tous les grands sujets mythologiques, ouais. Et particulièrement les scènes homériques. Il faut imaginer que autant des petits dessins, des gravures, des tableaux étaient plutôt du domaine de l'intime, du domaine du privé, autant une tapisserie, par définition, c'est un décor, donc c'est quelque chose qu'on met dans un lieu public. Et certaines scènes, soit par leur violence, soit par leur érotisme, peuvent vraiment être considérées comme scandaleuses. L'Église a d'ailleurs toujours eu une relation assez méfiante par rapport au texte homérique, hein, qui n'était pas interdit, mais qui était quand même considéré comme des textes qui sentaient un peu le soufre. D'abord parce qu'il y a du polythéisme, évidemment, par nature, puisque nous sommes dans la mythologie grecque, mais également parce que les sentiments humains sont extrêmement exacerbés et généralement pas maîtrisés. Au bon sens du terme, d'ailleurs, c'est-à-dire que les colères sont extrêmement violentes, les vengeances sont terribles, et l'amour est extraordinaire. L'amour paternel, l'amour conjugal...
Et puis surtout, les dieux sont nombreux et variés.
Les dieux sont nombreux et variés, ils sont méchants, ils sont rieurs aussi, ils aiment bien jouer avec les malheurs de l'homme, et chacun a son camp. Donc évidemment, dans le texte homérique, on suit comme cela des épisodes où les dieux décident du destin de tel ou tel des héros en fonction de l'histoire qui avance de manière assez inexorable.
Comment aussi ces histoires homériques ont été interprétées en musique, c'est présent dans cette exposition Homère. Mais alors, vraiment ce que je trouve tout à fait stupéfiant, parce que vous avez réussi à le faire, c'est aussi faire entendre Homère dans le texte, dans les mots, chez des poètes, comme Baudelaire. Alors tout cela à la radio, ça passe, dans un cours, ça passe, dans un livre, ça se tient, mais pour montrer ça dans une exposition... Eh ben, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez de très très bonnes idées qui étaient plutôt originales. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Vincent Pobrel?
Oui, alors je pense que ça repose sur la diversité des commissaires, parce qu'en fait nous sommes quatre commissaires qui venons d'horizons très différentes. Alain Jaubert, qui avait eu l'idée de l'exposition d'ailleurs au départ, est un écrivain, un cinéaste, quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, qui a lui-même été marin, donc il connaît très très bien le monde d'Ulysse. Alexandre Farnoux est directeur de l'École française d'Athènes, grand archéologue, spécialiste d'Homère, et Luc Pirala. Comme moi, nous sommes des spécialistes de l'époque moderne, plutôt 19e siècle. Et moi, j'ai une passion pour le cinéma et la musique, évidemment, qui explique beaucoup de choses. Et aussi pour l'humour, parce que il fallait quand même mettre dans l'exposition un petit peu de rire homérique. Donc je pense que c'est ce mélange en fait entre nos spécialités et nos personnalités qui fait que chacun a essayé de développer au mieux qu'il pouvait un sujet. Par exemple, Alexandre Farnoux voulait faire comprendre au public que comme l'œuvre a été composée sur 5 ou 6 siècles, quand on regarde le texte, il y a des objets qui sont du 8e ou du 9e siècle avant Jésus-Christ qu'on décrit et dont on voit très bien qu'ils sont de cette période et d'autres qui sont du 1er ou du 2e siècle avant. Donc un écart de plusieurs siècles entre des objets qui sont dans le même texte. Donc c'était son obsession et il l'a très bien représenté dans une vitrine anachronique extraordinaire. Moi j'avais très très envie de montrer comment est-ce que les écoles d'académie au 19e siècle ont utilisé les sujets homériques et particulièrement dans leur sensualité, leur violence pour faire briller les jeunes élèves et les gens qui passaient des concours. Alain Jaubert était passionné de littérature
qui dit littérature, c'est comment exposer ça?
Oui, c'est pas forcément simple. Alors évidemment, on peut utiliser des manuscrits originaux. Il y a une pièce qui est très émouvante, c'est un manuscrit d'Homère annoté par Racine, où Racine, qui a beaucoup utilisé dans son théâtre les histoires homériques, fait des commentaires sur ce qu'il a vu dans Homère et ce qu'il a envie de prendre. Alors évidemment, ce sont des choses très émouvantes. Bien sûr, des manuscrits. Les livres que possédaient les poètes du 19e ou les livres que possédaient les peintres, les éditions d'Homère qu'ils possédaient et qui ont pu leur servir pour mettre en œuvre leur inspiration. Et puis aussi l'utilisation à certains endroits de l'exposition de la voix, parce que nous avons beaucoup insisté sur cette transmission orale. Et nous avons pensé qu'il fallait que le visiteur entende des conteurs d'aujourd'hui, entende des textes lus, de manière à ce que cette tradition orale qui a été en fait à l'origine des textes homériques se retrouve dans l'exposition aussi. Alors nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser toute la palette de ce que le numérique propose, soit à travers des douches à son, soit à travers des casques où l'on peut passer des musiques ou des textes, soit sur des écrans. Et évidemment, c'est quelque chose que nous avons beaucoup développé avec des panneaux didactiques qui permettent aux visiteurs de retrouver certains textes et certains thèmes, et avec un parcours pour enfants aussi, de manière à ce que les jeunes visiteurs puissent retrouver tous ces thèmes expliqués d'une manière peut-être un peu plus simple.
Et puis à la fin, les textes d'Homère, c'est-à-dire l'Odyssée et l'Iliade.
Oui, qui reste des moments constants dans l'exposition, puisque nous sommes obligés sans arrêt de raconter les histoires que nous montrons dans les tableaux ou sur les vases ou dans les œuvres d'art. Et l'exposition se clôture effectivement sur d'une part Homère aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que Homère représente pour le public d'aujourd'hui, et cela va depuis les prénoms qui sont toujours utilisés aujourd'hui. On utilise toujours Achille, Ulysse, il y a des faire-part, il suffit d'aller sur internet
Pénélope,
pour voir ça. Pénélope bien sûr. Les noms de restaurants, de produits, d'hôtels, de clubs de foot à Amsterdam, etc., qui viennent en fait qui sont d'origine homérique. Et puis une réalité aussi qui est que Homère aujourd'hui, c'est aussi le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est aussi la Guerre des Étoiles qui se sont inspirés.
Vous pouvez même rajouter Game of Thrones. Hein.
Oui, exactement. Toutes ces nouvelles histoires épiques qui ont été écrites depuis, mais où on retrouve le souffle homérique et aussi certaines inspirations, même parfois littérales, de ce qu'il a pu inventer dans ces histoires.
Homère, l'exposition, c'est au Louvre-Lens jusqu'au 22 juillet. Merci Vincent Pomarède d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci infiniment.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture plante ses micros sur la croisette. Du 20 au 22 mai, Olivia Gesbert vous invite à midi à sa grande table.
Cannes fait son festival et je vous y attends pour parler cinéma avec nos critiques et passer de l'autre côté de l'écran avec Céline Sciamma, Antonio Banderas, les frères Dardenne, Claude Lelouch, Anouk Aimée et tant d'autres. Sud-coréens, mexicains, américains, belges ou italiens, tout le monde est là, dans l'œil de la caméra. Ça va ou on la refait ?
C'est OK.
OK, coupé alors.
Retrouvez France Culture, partenaire du Festival de Cannes, jusqu'au 25 mai et sur franceculture.fr.
On n'a jamais un rond, on sèche les trois quarts des cours, on n'aura jamais le bac.
France Culture passe le bac, Tiffaine de Roquigny.
Cette semaine, le studio se transforme en salle de classe et nous accueillons la crème des professeurs de lycée pour réviser les grands thèmes de l'économie. Peut-on concilier croissance et environnement ? À qui profite l'internationalisation des échanges ? Et comment lutter contre le chômage ? Que vous soyez lycéen ou nostalgique du bachot, à vos stylos, l'épreuve va commencer, vous avez une heure.
Entendez-vous l'écho à l'heure du bac, de lundi à jeudi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'extrême droite quitte le gouvernement en Autriche suite à un scandale lié à une possible corruption russe. Nous irons à Vienne dans un instant. Nous nous pencherons ensuite sur l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris a finalement ordonné la reprise des traitements, donnant raison provisoirement aux parents du patient. Matteo Salvini et le décret de la discorde en Italie. Le ministre d'extrême droite souhaite condamner fermement les personnes qui aident les migrants en mer. Il se coupe un peu plus de ses alliés au pouvoir, les 5 étoiles. Et puis en Arménie, le Premier ministre veut purger le système judiciaire. Il incite pour cela la population à aller bloquer les tribunaux. Le gouvernement autrichien a donc perdu une partie de ses ministres hier. Ceux du FPE ont annoncé leur démission. Ils n'acceptent pas le limogeage de leur collègue à l'intérieur, Herbert Kickl, un membre important du parti d'extrême droite en Autriche. Le pays traverse en fait une crise politique après la vidéo montrant le chancelier du FPE prêt à se compromettre avec la Russie, vidéo diffusée le week-end dernier. Voici le récit de notre correspondante Isorias.
C'est après de longues tractations que le chancelier conservateur Sébastien Kurz a annoncé le limogeage du ministre de l'Intérieur Herbert Kickl. Le cas de ce membre influent du FPE a été au cœur des discussions. Sébastien Kurz souhaitait son départ car dans la vidéo qui a fait scandale, Heinz Christian Strache, le vice-chancelier démissionnaire, parle d'un financement caché du FPE. Or, au moment où la vidéo a été tournée en juillet 2017, Herbert Kickl était secrétaire général du parti. S'il y a une enquête, son départ est donc nécessaire pour qu'elle se fasse en toute indépendance, selon le chancelier. Herbert Kickl ne peut pas enquêter contre lui-même, a-t-il expliqué. Mais le FPE avait prévenu qu'il n'accepterait pas le départ forcé de ce dernier. Tous les ministres du parti ont donc démissionné. Sébastien Kurz devrait proposer au président de la République, Alexander Van der Bellen, de nommer des experts au poste laissé vacant.
Isorias depuis Vienne pour France Culture. Des législatives anticipées pourraient ensuite se tenir en septembre prochain. En Autriche. Il dit ne pas vouloir être spectateur mais acteur de l'élection européenne. Emmanuel Macron donne un entretien ce matin dans plusieurs journaux de la presse régionale. Entretien dans lequel il fustige une fois encore les partis nationalistes en Europe, estimant ne pas pouvoir laisser se disloquer l'Europe. Notons que le quotidien La Voix du Nord a refusé de participer à cet entretien par souci d'équilibre. Le quotidien refuse également une possible relecture du texte par l'Élysée avant publication. Les parents de Vincent Lambert y voient une très grande victoire. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a ordonné, à la surprise générale, la reprise des traitements. Ils avaient été interrompus le matin même au CHU de Reims. Reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, tétraplégique, en état végétatif depuis 10 ans. Cette décision hier soir de la Cour d'appel est provisoire. Elle sert à ce que le Comité international des droits des personnes handicapées puisse examiner sur le fond cette affaire, Corinne Audouin.
C'est une décision provisoire qui ne tranche pas le fond de l'affaire, mais c'est un incroyable revirement dans un dossier où les parents de Vincent Lambert collectionnaient jusqu'ici les défaites judiciaires. Le 3 mai dernier, le Comité des droits des personnes handicapées, un organisme rattaché aux Nations Unies, demandait à la France de veiller à ce que l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ne soient pas interrompues, des mesures provisoires, le temps d'examiner le recours formé par ses parents. La France avait refusé en arguant que la demande n'était pas contraignante. Mais peu importe, estime la Cour d'appel, la France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Elle reconnaît donc la compétence du comité. Or, dans ce cas, refuser de prendre les mesures demandées a pour conséquence de porter atteinte au droit à la vie écrivent les magistrats, qui ordonnent donc la reprise des traitements. Les parents de Vincent Lambert ont gagné un nouveau sursis dans la bataille qui déchire leur famille depuis maintenant 6 ans.
Le neveu de Vincent Lambert dénonce en revanche un sadisme pur de la part du système médico-judiciaire en France. 8 syndicats de l'assistance publique hôpitaux de Paris ont déposé un préavis de grève à partir de jeudi soir jusqu'à samedi matin. Ils réclament, comme en avril dernier, de véritables négociations sur l'emploi, les salaires et les restructurations en cours. Et puis notez que les députés à l'Assemblée nationale ont voté hier en commission le principe pour rendre automatique les restrictions de circulation en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte à la pollution. Aujourd'hui, ces restrictions de circulation sont déclenchées sur ordre du préfet. Le bras de fer entre la Maison-Blanche et le géant chinois Huawei se poursuit. La semaine dernière, Donald Trump interdisait à toutes les entreprises américaines de commercer avec le numéro 1 chinois. Mais hier, les États-Unis ont un peu assoupli leur position en accordant un délai de 3 mois au géant des télécoms Huawei avant d'imposer leurs restrictions. Les explications de Grégory Phillips.
Au nom de la sécurité nationale, Donald Trump signait mercredi ce décret interdisant aux entreprises américaines de vendre leurs produits technologiques à Huawei. Mais 5 jours plus tard, le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, tente visiblement de calmer le jeu et annonce un délai de 3 mois avant la mise en place de ces sanctions. Cela signifie que dans les 90 jours qui viennent, Google, par exemple, pourra continuer à vendre à Huawei son système Android ou ses applications, mais pas au-delà. Pour Washington, le numéro 2 mondial des smartphones est beaucoup trop proche du pouvoir de Pékin et soupçonné d'espionnage, mais le bras de fer va en vérité bien au-delà du dossier Huawei, puisqu'Américains et Chinois n'ont toujours pas trouvé d'issue au conflit commercial qui les oppose depuis 10 mois, à coups de menaces et de sanctions à plusieurs milliards de dollars.
Et précisons que Huawei annonce ce matin être en discussion avec Google pour tenter de trouver une solution à la rupture de ses liens avec le géant américain de l'Internet. Joko Widodo repart pour un deuxième mandat à la tête de l'Indonésie. Il emporte la présidentielle avec 55,5% des voix. Voilà ce que dit ce matin la commission électorale en Indonésie. En Italie, retour maintenant sur un conseil des ministres houleux. C'était hier soir, alors qu'était discuté un décret de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et le chef de file de l'extrême droite dans le pays. Le texte en question condamne à de fortes amendes les personnes qui secourent des migrants en mer. Tollé des ONG et du partenaire de la Ligue au pouvoir, le mouvement populiste 5 étoiles. Compte-rendu signé Mathilde Imberti.
Le Conseil des ministres s'est ouvert dans un climat de grande tension hier soir. Les alliés Ligue et 5 étoiles ne se parlent quasiment plus et règlent leurs différends par médias interposés. Dernière crispation en date, Matteo Salvini est furieux que 47 migrants aient été débarqués sur l'île de Lampedusa par une ONG allemande, Sea-Watch, malgré son slogan des ports fermés. À mi-mot, il a accusé le ministre des Transports, le 5 étoiles Danilo Toninelli, d'en avoir pris le contre-pied. Et il sort de ses gonds lorsqu'il apprend en direct à la télévision italienne ce dernier débarquement.
Le ministre, c'est moi. Je vais renforcer la possibilité de poursuivre pour aide à l'immigration clandestine quiconque aide une organisation non gouvernementale illégale et hors la loi à débarquer des migrants en Italie. Da un'organizzazione
illegale e fuori legge. Matteo Salvini, qui a présenté hier soir en Conseil des ministres un texte qui pénalise le secours aux migrants, les navires de secours risquent des amendes de 10 000 à 50 000 euros et le ministre de l'Intérieur peut interdire les eaux territoriales italiennes à un navire pour des raisons d'ordre public. C'est ce que prévoit la première version du texte. L'ONG Médecins Sans Frontières dénonce une agression sans précédent au principe humanitaire alors que la traversée de la Méditerranée devient de plus en plus dangereuse. Faute de secours, 1 personne sur 5 prenant le départ de Libye meurt noyée.
Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. Mathilde qui évoquait la Libye. Un conseil de sécurité de l'ONU sera consacré aujourd'hui à la situation sur place alors que la bataille de Tripoli s'y poursuit. Des fidèles du gouvernement de l'Union nationale viennent de révéler recevoir du matériel de guerre de la part de la Turquie. Nous y reviendrons dans le journal de 7h. Avant cela, il est 6h38 sur France Culture et nous nous penchons sur l'Arménie où des manifestations ont eu lieu hier contre la justice du pays. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale, Erevan. Elles protestent contre la sortie de prison de l'ancien président Robert Khodcharian. Il est accusé de fraude électorale et de coup d'État en 2008. La foule a répondu en fait à un appel de l'actuel Premier ministre Nicole Pachinian. Les explications de Nadine Epstein.
Selon les termes du Premier ministre arménien, ce blocage doit marquer l'entrée de la révolution dans la deuxième étape cruciale, celle où le pouvoir judiciaire doit, comme les pouvoirs législatifs et exécutifs, posséder la légitimité et la confiance du peuple. Sinon, affirme Nicole Pachignan, c'est une menace directe à la vie normale dans le pays, à la stabilité et à la sécurité nationale. Le dirigeant arménien critique le système judiciaire, corrompu et partial à ses yeux, une justice qui continue de fonctionner comme sous l'ancien régime aux ordres de ses représentants politiques. Pour preuve, cette libération de l'ancien président, obtenue grâce à la caution et à l'intervention d'élus du Karabakh. Peu après sa prise de pouvoir, il y a un an, Nicole Pachignan a lancé une campagne anticorruption qui a mené à l'arrestation de plusieurs hauts responsables, dont l'ancien président Robert Kocharyan. Le Premier ministre arménien a annoncé un contrôle plus strict des juges, la démission ou le limogeage des juges qui ont pris des décisions en violation sérieuse des droits des citoyens établis par la Cour européenne des droits de l'homme. Il promet une coopération avec les ONG, la société civile et les organisations internationales dans lesquelles l'Arménie est engagée.
Revenons en France pour quelques mots de météo. Une légère accalmie est prévue ce mardi avec un temps encore bien nuageux mais moins d'averses. Ce matin, comptez 14 degrés à Besançon, 16 à Lille, Nantes et Bordeaux, 17 degrés à Paris, 20 degrés à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, l'histoire de l'Europe à travers les échanges et en dépit des guerres et régressions nationalistes, cette histoire est intimement liée à la vie intellectuelle.
Mais oui, depuis l'affaire Dreyfus et l'apparition de cette figure de l'intellectuel engagé dans la vie de la cité, les apocalypses des conflits armés ont éclipsé son rayonnement. Dans les pages idées de Libération, Frédéric Worms invoque pourtant cette histoire intermittente mais commune et les progrès difficiles d'une Europe des Lumières à travers ses métamorphoses dans la formation d'un esprit européen. Car il y a, dit-il, des leçons à tirer d'une histoire européenne des intellectuels qui a pris au XXe siècle la forme du déni, du conflit et de la résistance. Déni opposé au déchirement nationaliste par l'idée d'un travail linéaire de la raison dans l'histoire. Engagement fatal dans le conflit mondial et ses prodromes alors que le pacifisme est devenu impossible, comme l'expliquent Simone Veil ou Georges Canguilhem à leur maître Alain après Munich. Et puis, dans le contexte de la guerre froide, une résistance qui a pris la forme de la dissidence, dont nous héritons aujourd'hui avec les autres formes incarnées, l'universalisme, l'engagement militant. Pour le philosophe, la tâche qui nous incombe dans l'époque actuelle est de cultiver ce triple héritage pour défendre et faire avancer la démocratie. L'Europe sera universaliste, je cite, critique, résistante, et en outre, une et plus et multiple, située et diverse. C'est donc en un sens intellectuel où elle ne sera pas. Dans Le Monde, Anne Dugin brosse le portrait de la politiste belge Justine Lacroix qui illustre parfaitement cet engagement en faveur de l'identité politique européenne. Entrée en 1994 au cabinet de Jacques Delors, le président de la Commission, elle décide de compléter sa formation en sciences politiques par une thèse de philosophie politique sous la direction de Jean-Marc Ferry, passeur reconnu des théories de Habermas et européen convaincu. La question fondamentale qui m'intéressait était « Quels sont les principes qui permettent de fonder une communauté politique » explique-t-elle. À l'époque, c'est le débat ouvert par la théorie de la justice de John Rawls qui domine le champ intellectuel face aux principes qu'elle énonce sur le caractère cette théorie donc sur le caractère inaliénable des droits individuels, l'autodétermination des individus et la primauté du juste sur le bien dans les institutions politiques. Face à eux, les communautariens donc autour de penseurs comme Charles Taylor ou Michael Walzer, critiquent le caractère formel de cette théorie. Ils affirment qu'un sentiment d'appartenance et une certaine conception du bien partagé par tous restent nécessaires à l'existence d'une communauté politique. Un débat qui éclaire les difficultés de la construction politique de l'Europe. Justine Lacroix en appelle à la notion de patriotisme constitutionnel définie par Habermas. L'adhésion à des principes politiques communs peut créer un sentiment sentiment d'appartenance politique. L'Europe pourrait ainsi devenir le laboratoire d'une citoyenneté multinationale fondée sur l'adhésion des individus aux principes de l'état de droit sans nier leurs identités culturelles propres. Comme le relève Anne Dugin, elle couvre ainsi un nouveau genre, elle ouvre ainsi un nouveau champ, celui de l'articulation entre droit et politique, à l'inverse de ceux qui redoutent pour l'Europe une logique de revendication infinie des droits individuels. Elle défend avec Étienne Balibar le langage du droit comme une lutte politique qui ouvre la possibilité d'une expansion continue de la démocratie. C'est dans cette perspective qu'elle publie au Seuil un ouvrage sur le procès des droits de l'homme, une réponse aux contempteurs du dénommé droit de l'hommisme face aux crispations populistes électoralement avantageuses sur la crise migratoire de 2015. Elle pose la question: que reste-t-il de la citoyenneté européenne comme laboratoire de la citoyenneté cosmopolitique? On voit ressurgir cette figure du sans-droit qu'évoquait Hannah Arendt. Cela pourrait porter un coup fatal au projet européen. La revue Communication propose un dossier sur les droits humains au XXIe siècle, dirigé par Nicole Lapierre et Véronique Naumgrapp. Elle rappelle leur caractère universel, essentiel, mis en cause par des régimes non démocratiques qui invoquent le relativisme culturel, national, ethnique ou religieux. Le passé colonialiste d'un monde occidental qui s'en prévalait mais ne les a pas respectés dans ses menées impérialistes contribue aussi à les discréditer, tout comme la démocratie en Europe, le combat pour les droits humains est une dynamique. Les auteurs évoquent notamment la vie sociale de ces droits, la globalisation économique, la menace écologique, le sort des populations migrantes, la stigmatisation de certaines minorités nécessite la réaffirmation des principes acquis sans être respectés et l'élaboration de protections inédites. Dans sa contribution sur la mémoire kanak de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, mémoire à la fois poétique et politique, l'anthropologue Alban Bensa montre comment elle irrigue aujourd'hui une revendication de justice. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux, Paris, Delhi, Canberra, l'Indo-Pacifique.
C'est ça, et que devient l'Australie pivot stratégique de cet axe et qui vient contre toute attente de ne pas changer de main ou de couleur politique lors des élections fédérales de samedi. La coalition libérale conservatrice est confirmée, son leader Scott Morrison fortifié, et ce vote épargne donc à l'Australie un sixième Premier ministre en une décennie, mais pour une apparente stabilité peut-être. Voyons ça avec vous, David Camroux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheur associé aux séries, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie dans cet Indo-Pacifique. Alors, c'est vrai que c'est un peu la surprise pour ces élections qui de renouveler la moitié du Sénat et 151 députés, puisque depuis trois semaines, les instituts de sondage prédisaient une victoire des travaillistes, 51% contre les conservateurs. Et puis là, finalement, on a un jeu qui est complètement bouleversé. On va revenir sur les chiffres, mais comment est-ce qu'on explique un tel écart d'abord de prédiction?
Oui, je crois qu'on n'a pas en fait mesuré dans les détails circonscription par circonscription les bouleversements. Et les travaillistes ont perdu les élections dans l'état de Queensland, l'état du Nord, où il y a eu un basculement plutôt vers le Parti libéral, le centre-droite, grâce justement aux deuxièmes préférences de l'extrême droite de deux partis, le United Australia Party et une partie One Nation. Je vous explique. En Australie, il y a un système avec une vote obligatoire, donc on ne peut pas expliquer le résultat par l'abstentionnisme. Il y a un taux de participation en général dans une élection de 95%. Mmh. Et deuxièmement, vous avez un vote préférentiel ou un vote alternative où qui résout le problème de vote utile, en fait. On peut voter pour une partie d'extrême droite en première préférence, mais ensuite, les deuxièmes préférences sont redistribuées aux autres candidats, et c'est ça qui a aidé, en fait, les conservateurs dans l'état de Queensland. Dans cet état, le leader du United Australia Party de l'extrême droite a dépensé, je crois, 60 millions de dollars pour sa campagne, qui était une campagne négative contre les travaillistes. Mm. Et bien qu'au niveau national, il n'a que 3,9% des voix, dans un certain nombre de circonscriptions, ça a fait basculer le résultat en faveur du Parti libéral.
D'accord, donc il faut regarder le vote par État, voire par circonscription, d'une part. Est-ce que c'est ce que ça veut dire lorsque vous parlez d'un premier choix qui a été fait pour des partis plutôt nationalistes ou que vous dites extrême droite, lorsque Scott Morrison, le Premier ministre donc élu, a salué les Australiens silencieux, c'est ceux qui ne savaient pas s'ils allaient voter ou qui ne se déclarait pas?
Je crois que nous avons en Australie, comme pour le Brexit et comme pour l'élection de Donald Trump, et comme c'est arrivé actuellement en Europe, une montée d'un certain type de populisme, disons, un peu d'Australie blanche, en fait, dans ce cas. Et effectivement, Morrison a fait une très bonne campagne avec très peu, en fait, en exprimant très peu sa politique. Les travaillistes, au contraire, avec Bill Shorten, qui a tout le charisme d'un expert comptable en pompe funèbre, a fait une campagne très honnête, en fait. Ils ont annoncé qu'il y aura des augmentations d'impôts pour les gens les plus riches, une redistribution et une campagne axée sur l'écologie, en fait. Il faut vraiment faire face au changement climatique. Et en fait, Morrison se montrait quelqu'un avec beaucoup plus d'empathie pour le petit Australien, pour l'Australien moyen, ce qu'il appelle l'Australien silencieux. Et tandis que Shorten avait cette impression d'être l'apparatchik du parti, du parti progressiste, en fait le parti progressiste de l'Australie qui est la Victoria.
Et Shorten a souffert d'une mauvaise image et d'une campagne assez agressive des conservateurs qui en gros pointaient, disons, les hausses d'impôts qu'allait entraîner le programme, disons, à destination des classes populaires, c'était ça?
C'était ça, et c'est surtout en ce qui concerne les retraités, en fait. Les travaillistes voulaient attaquer un peu aux rentiers parce que les prix de l'immobilier en Australie ont flambé, donc ça devient impossible pour les premiers acquérants, les jeunes couples en Australie d'acheter leur maison, c'est un peu le rêve australien. Mais ça c'est un peu un boomerang, on est quand même dans le pays du boomerang, parce que le Parti libéral, les conservateurs ont lancé une campagne contre cet impôt, contre les retraités, en fait. Oui. C'est ça comme ils ont décrit la politique des travaillistes.
Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu non plus de sanctions, comme on aurait pu croire, des climato-sceptiques, puisqu'il y avait eu une campagne très axée sur les questions climatiques, après les canicules, après les incendies, tous les deux les plus importants depuis 100 ans, là, au début de l'année en Australie.
Il y a eu une vote sanction dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, dans la circonscription de Warringah. L'ancien Premier ministre Tony Abbott a été battu par un candidat indépendant. Il y a eu une grande campagne contre lui parce qu'il est climat-sceptique et contre son homophobie. Et donc il y a eu quand même dans la partie sud de l'Australie une vote sanction, en fait, une vote disons contre les climat-sceptiques. Mais ce n'était pas suffisant, en fait, pour compenser la perte, justement, des voix dans le Queensland.
Bon, et maintenant, alors, 41% pour les conservateurs, 33% pour les travaillistes, 10% pour les Verts, ça c'est pour le Parlement. Ça fait 78 sièges, à peine la majorité pour la Chambre des représentants à deux sièges près. Scott Morrison est confirmé, donc, puisqu'il est arrivé l'année dernière, mais il va gouverner les mains entravées, dit-on?
Dans le Sénat, aucun parti a une majorité, et donc c'est les Verts qui ont 9 ou 10 sièges au sénateur qui vont jouer un peu le rôle charnière dans le Sénat. Donc il y aura des mains un peu liées, mais en même temps, je crois que les questions de changement climatique non pas à disparaître. Je crois qu'il y a une prise de conscience, au moins dans la partie urbaine du pays, mais il faut faire face à ce défi sans donner l'impression qu'on va punir les petits gens. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est quand même paradoxal que l'Australie, qui a tous les atouts, comme disaient les travaillistes, pour être le leader mondial dans les énergies renouvelables, traîne justement à cause du lobby du charbon, les grandes mines de charbon qui est un grand produit d'exploitation du pays, qui empêche justement un progrès dans sur ces questions.
Oui, et justement, c'était le directeur du Lowy Institute, Michael Fullilov, qui disait que cette réélection ou élection de Morrison allait lui donner une chance d'obtenir une sorte de nouveau départ pour sa politique étrangère, peut-être pour le positionnement aussi sur les questions climatiques de charbon. Est-ce que vous voyez ça possible, à la fois, disons, l'abandon de ce rôle de premier producteur de charbon et une clarification des positions vis-à-vis de la Chine et des États-Unis ?
Je crois qu'il y aura effectivement une clarification, parce qu'il y a quand même une contradiction que la Chine est le premier partenaire commercial du pays, tandis que le grand frère américain est le garant de sécurité du pays. Donc, n'importe lequel premier ministre, il aura à faire justement de ne pas faire s'entraîner à l'Australie dans cette guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, et également peut-être prendre un peu plus de distance par rapport au président Trump. Malheureusement, Morrison et Donald Trump sont un peu les frères. C'est bien, c'est un peu le même type de populiste. Et ça risque justement, mais c'est là que le Sénat va jouer son rôle et l'opposition de modérer un peu ces tendances un peu trop pro-trumpistes.
Et avec effectivement peut-être un des prochains fronts sur la question climatique et cette fameuse mine du groupe indien Adani dans le nord-est, dans le fameux Queensland, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas pour ce débriefing et ces explications aujourd'hui. Aujourd'hui, David Camrou, je rappelle, chercheur aux séries de Sciences Po. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition événement Paris romantique au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique. Cet été, plongez dans le tourbillon culturel parisien de 1815 à 1848. Peintures, sculptures, costumes, objets d'art, l'exposition vous invite à une promenade dans les quartiers emblématiques de la capitale, comme le Palais Royal, Notre-Dame de Paris ou les Grands Boulevards. L'été sera romantique. Paris romantique, 1815-1848, du 22 mai au 15 septembre à Paris, au Petit Palais et au Musée de la Vie romantique. Un partenariat France Culture et France 3. Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume Erner.
Mais bonjour, oui, Guillaume. Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors il paraît que Marx avait tout prévu sauf Huawei.
Eh oui, Huawei est la plus belle invention du communisme depuis la révolution d'octobre, ou bien encore, à en croire le New York Times, Huawei est un parti communiste qui a réussi. L'organisation même de l'entreprise ressemble à celle du parti. L'entreprise est dirigée par 7 cadres, comme le parti communiste chinois. Son école de formation interne copie celle du parti. Huawei organise des cérémonies pour ses cadres comme celle du parti, etc. Et la guerre que mènent Google et Huawei est une sorte de choc de civilisation de poche, puisqu'elle se déroule dans le domaine des smartphones. Alors, à ma droite, Google, qui prouve une fois de plus ce que la gratuité veut dire au sein du système capitaliste, c'est-à-dire pas grand-chose. Je m'explique. Le contentieux Google-Huawei porte sur le système d'exploitation Android. Google veut priver les mobiles Huawei du système Android, lequel équipe environ 80% des téléphones mobiles dans le monde. Oui, et voilà. Priver Huawei d'Android, c'est un peu plus compliqué que cela, car à l'origine d'Android, on trouve un logiciel libre, autrement dit Linux. Android a été développé par Google sur une base de Linux, sur un système d'exploitation qui a été développé donc par des informaticiens bénévoles qui ont passé des centaines de milliers d'heures à associer leurs forces pour fabriquer un système d'exploitation qui serait ouvert, libre et modifiable, tranchant ainsi avec le système d'exploitation vendu par Microsoft. Mais au sein du capitalisme, le gratuit ne le reste pas longtemps. Sur cette base gratuite, Google a généré des fortunes dès 2010. Android rapportait plus d'un milliard de dollars par an à Google. Dès lors, l'affrontement Huawei-Google est l'affrontement du pire des deux systèmes. D'un côté, une entreprise souverainiste chinoise accusée de maltraitance vis-à-vis de ses salariés, prête à tout pour accroître ses parts de marché. De l'autre, une entreprise qui a réussi à mettre la culture marginale de la Californie au service de la création de valeur pour l'actionnaire. Huawei contre Google, c'est un dilemme cornélien entre deux modes de domination. Comme l'aurait dit Coluche, d'un côté l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'autre côté l'inverse. Ou plus exactement, d'un côté l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'autre le système d'exploitation.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Vous l'avez peut-être entendu, la justice ordonne la reprise des soins de Vincent Lambert. La cour d'appel de Paris, saisie par les parents du patient, a tranché lundi soir. C'est donc un coup de théâtre hier soir dans l'affaire Vincent Lambert. Contre toute attente, le recours des parents de ce tétraplégique en état de conscience minimale depuis 10 ans a été entendu par la cour d'appel de Paris. On va en parler, nous serons en compagnie tout d'abord de Régis Aubry, les médecins-chefs du département douleurs et soins palliatifs du CHU de Besançon. Et il est président de l'Observatoire national de la fin de vie. Et puis ensuite, nous serons en compagnie avec Valérie Depatte. Elle est maîtresse de conférence en droit privé et conseillère de l'espace éthique de l'Agence régionale de santé. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.